Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Et cette semaine, vous nous parlez de la politique étrangère américaine. Le tournant stratégique pris par les États-Unis sous la direction de Trump mine ce qu'on appelait l'ordre libéral international. Comment réagissent ses défenseurs, Brice?
Un néoconservateur comme Robert Kagan ne cesse de rappeler le désastreux souvenir de l'entre-deux-guerres. À cette époque déjà, les États-Unis, devenus la première puissance mondiale, ont prétendu s'abstraire des rivalités européennes. Ils n'ont pas bougé lorsque le Japon a envahi la Mandchourie. On connaît la suite, dit-il, Pearl Harbor, puis la guerre avec l'Allemagne. Une leçon devrait être claire, écrit-il. C'est lorsque les temps sont cléments et qu'aucune menace grave n'est visible à l'horizon qu'il faut se préparer à affronter les moments difficiles. C'est alors qu'il faut investir dans des alliances, alors même qu'elles apparaissent le moins nécessaires, qu'il faut fluidifier l'économie mondiale et maintenir le commerce international relativement ouvert, soutenir les institutions économiques multilatérales, alors même qu'on n'y a pas un intérêt manifeste. Fait évident. Ainsi, lorsque survient un désastre comme c'est inévitable, le système s'avère plus solide et plus résilient. La confiance mutuelle des acteurs permet de surmonter les crises. Fin de citation. Une leçon qui s'adresse manifestement à Trump, accusé d'avoir fait tout le contraire. Mais Michael Beckley lui-même conclut son papier paru donc dans Foreign Affairs, daté de novembre, par un plaidoyer pour le retour à une politique plus libérale. Sinon, avertit ce professeur de sciences politiques, le monde actuel, ouvert, pourrait bien se recomposer en zones économiques exclusives, en compétition les unes avec les autres, une voie dans laquelle s'est déjà engagée la Chine. Si les États-Unis leur emboîtent le pas, de nombreux pays devront choisir entre ces deux blocs, à moins qu'ils n'aient les moyens de constituer le leur. Ce serait donc le retour d'un monde de grandes puissances mercantiles, veillant jalousement sur leurs marchés respectifs. Et que deviendraient alors tous ces petits États faibles, de naissance récente et souvent incapables d'assurer à leur population les services nécessaires?
Et du côté des défenseurs de la politique étrangère de Trump, quels sont les arguments à mettre à son actif?
Dans la même livraison de la revue Foreign Affairs, on trouve en effet un article de Nadia Shadlow, qui a exercé brièvement d'importantes fonctions dans l'administration Trump. Son analyse repose sur l'idée que les illusions de l'après-guerre froide ne tiennent plus. Le nouvel ordre mondial préconisé par le président George Bush au lendemain de la dissolution du pacte de Varsovie prévoyait une convergence générale des États vers le libéralisme économique, une mondialisation sous supervision de l'OMC. Il supposait une gouvernance globale sous leadership américain qui permettrait de s'attaquer enfin aux défis transnationaux tels que la prolifération nucléaire, le changement climatique et le terrorisme. Mais ce monde idéal, supposer que la Chine accepte de jouer le jeu de la concurrence libre et non faussée, que les agences internationales fassent preuve de compétence et d'efficacité, et que les États-Unis conservent leur supériorité militaire. Enfin, que l'âge de l'information, comme on disait, permis par les technologies numériques, favorise l'expansion de la démocratie. Tel n'a pas été le cas selon elle. Sous direction communiste, la Chine a persisté à contrôler ses marchés au lieu de les ouvrir, malgré son admission à l'OMC de 2001. L'OMC, quant à elle, comme l'OMS d'ailleurs, sont devenus d'énormes bureaucraties s'occupant de beaucoup trop de sujets pour pouvoir mener à bien leurs missions essentielles. Les États-Unis ont perdu leur prédominance dans tous les domaines militaires. Les systèmes de déni d'accès, chinois et russes, ont considérablement réduit les capacités d'intervention américaines. Et les missiles hypersoniques, dans lesquels Moscou semble avoir pris un récent avantage, rendent les antimissiles ineffectifs. Quant aux nouvelles technologies, telles que l'intelligence artificielle ou la reconnaissance faciale, le pouvoir chinois s'en sert pour exercer sur la population un contrôle social inouï. Si Trump a rompu avec la pensée politique traditionnelle du Département d'État, d'après cette chercheuse spécialisée, s'il a abandonné, je cite, « les mythes de l'internationalisme libéral », c'est qu'il a pris acte de ces changements. Trump, lui, croit au rôle des États dans l'arène internationale. Il ne partage pas les visions multilatérales grandioses de ses prédécesseurs à la Maison-Blanche. Mais il n'a pas renoncé pour autant a assuré la libre circulation des mers, en particulier en mer de Chine. Il applique le principe de réciprocité dans les échanges commerciaux et use dans ce sens des droits de douane. Il est parvenu à obtenir des alliés de l'OTAN qu'il contribue plus sérieusement au budget commun de l'organisation. Enfin, il a augmenté de 20% le budget du Pentagone depuis sa prise de fonction. Conclusion de Nadia Shadlow, quel que soit le vainqueur des élections de novembre, le retour au postulat stratégique pensé pour le moment unipolaire, les quelques années d'hégémonie américaine qui ont suivi l'éclatement de l'Empire soviétique, ce retour, eh bien, il nuirait gravement aux intérêts américains. Si un démocrate gagne la Maison-Blanche, il devra conserver, écrit-elle, la conviction que la rivalité est un trait inaltérable du système international et que ce serait une grave erreur de revenir au postulat d'une époque dépassée.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site internet de France Culture, mais aussi les réseaux sociaux et l'application Radio France.